Le gaullisme, qu'on le veuille ou non, demeurera dans l'histoire de notre pays et par conséquent, pour une certaine part, dans celle du monde, comme un phénomène exceptionnel, semblable à un météore dont la trajectoire déconcertante, surgissant en 1940 dans le ciel sanglant de la défaite, s'est achevée 30 ans plus tard par la mort de celui qui lui avait donné son nom. En fait, cette trajectoire avait déjà pris fin, en tant que celle d'un fait politique, par l'échec du référendum du 27 avril 1969. Désavoué par le pays dont il avait si souvent obtenu, quelquefois forcé, l'approbation, de Gaulle avait dû s'éloigner dans sa retraite villageoise et chagrine. Retracer les différentes phases du phénomène gaullisme avec objectivité, c'est très difficile, surtout pour un homme qui, comme c'est mon cas, en a vécu et, on peut le dire, en a souffert certaines périodes. C'est cependant ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Au début, il y eut ce que j'appelle le gaullisme de guerre, 1940. C'était l'effondrement de la France, c'était l'invasion proche de la Grande-Bretagne, et pour beaucoup d'hommes et de femmes dans le monde, il apparaissait que le national-socialisme et l'impérialisme hitlérien allaient triompher. Il y eut alors, en France et hors de France, des hommes qui répondirent à cette situation effroyable par un refus. Des hommes qui disaient non, qui ne voulaient pas s'incliner, et ces hommes, bien entendu, recherchaient un point auquel s'accrocher, un noyau autour duquel s'agréger. Il se trouva que ce fut le général de Gaulle. Et si j'en juge par ma propre expérience, nous étions, et d'ailleurs peu nombreux, ceux qui vinrent à Londres alors, nous étions dans l'ignorance la plus complète en ce qui concernait la personne de l'homme qui était devenu, par accord avec Winston Churchill, le chef des Français libres. Il se fut appelé autrement, ou bien un haut commissaire ou un général en Afrique du Nord ou au Levant aurait levé l'étendard de la résistance et, bien entendu, nous l'aurions suivi. Les premiers gaullistes n'étaient pas gaullistes. Ils étaient tout simplement des Français qui ne voulaient pas admettre que leur pays demeurât un satellite de l'Allemagne hitlérienne. Ce gaullisme de guerre, qui s'est concrétisé par la création des forces françaises libres en 1940, devait nécessairement, assez vite, modifier son caractère. Pourquoi ? Parce que, d'abord, la poignée d'hommes, civils ou militaires, de toute tendance politique, de toute opinion, de toute confession religieuse, qui s'étaient réunis, devaient augmenter, devaient s'accroître d'une quantité d'hommes venant de tous les coins du monde et notamment des territoires d'outre-mer. Ensuite, parce que plusieurs de ces territoires d'outre-mer, en particulier tous ceux de l'Afrique équatoriale française, le Cameroun, puis la Nouvelle-Calédonie, puis la Polynésie, vinrent se rallier à l'étendard de la France libre et qu'ainsi se posaient des problèmes administratifs, économiques, politiques, et que le petit état-major purement militaire qui d'abord s'était groupé à Londres se trouvait par la force des choses devenir l'équivalent d'un gouvernement en exil. C'est cette évolution qui, à travers des péripéties connues, notamment à partir de novembre 1942 lorsque les Alliés eurent débarqué en Afrique du Nord, conduisit le Comité national de la France libre, dont j'eus l'honneur de faire partie comme commissaire national à l'information, jusque au Comité français de libération nationale d'Alger, présidé par le général Giraud et par le général de Gaulle, puis au gouvernement provisoire également à Alger, avec son assemblée consultative représentant les différentes tendances de la résistance, et enfin au gouvernement provisoire qui s'installa à Paris avec la libération. Dès lors, se produisait inévitablement une politisation du gaullisme et on se souvient que sous l'impulsion de Jean Moulin d'abord, puis de Georges Bidault, Tous les partis de droite, de gauche et du centre, toutes les centrales syndicales, tous les mouvements de résistance tels que Libération, le mouvement de libération nationale, Combat, Franc-Tireur, se groupèrent en un Conseil national de la résistance qui, à l'intérieur même de la France occupée, devint une sorte de parlement par rapport au gouvernement provisoire installé à Alger. Ces années de 1943 à 1944 virent des coups de plus en plus rudes s'abattre sur la résistance intérieure. Et pour ce qui me concerne, puisque ma tâche consistait à maintenir la liaison entre le gouvernement provisoire et cette résistance intérieure, que de fois j'appris que des amis, souvent même de très proches amis, étaient tombés sous les coups de la Gestapo, comme par exemple Pierre Brossolette ou Médéric. Et on peut dire que c'est une résistance presque à bout de force, et qui, en 1944, cependant, dans un élan qui avait été soigneusement préparé du reste, cette résistance réussit à paralyser la réaction de la Wehrmacht au débarquement de Normandie, et c'est le général Eisenhower lui-même qui a reconnu que la contribution de nos réseaux et de nos groupes armés clandestins avait été capitale pour la victoire des Alliés. Quoi qu'il en soit, nous arrivions, nous, ceux de l'extérieur, d'Angleterre, d'Afrique, d'Algérie, nous arrivions en France, nous retrouvions nos camarades du combat clandestin, et c'est alors que, sur les ruines de la Troisième République et de l'État français de Vichy, commença à se créer la Quatrième République. C'est alors aussi que le gaullisme prend une autre figure, et en particulier, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui, lorsqu'on se remémore tous ces événements, en raison de caractéristiques psychologiques propres à son chef, propres au général de Gaulle, et en particulier ce que j'appellerais une allergie profonde vis-à-vis des assemblées. De Gaulle, on le sait, avait été accueilli avec un enthousiasme extraordinaire par la population parisienne. Il avait reformé le gouvernement en y faisant entrer des personnalités de la résistance, telles que par exemple Georges Bidault en tant que président du Conseil national de la résistance. Mais très vite, entre les groupes politiques qui étaient sortis de l'ombre, les partis qui se reconstituaient lui-même, il y eut méfiance réciproque. Et lui-même, dans ses mémoires, fait état de signes imperceptibles à d'autres, auxquels il reconnaissait, disait-il, la méfiance des partis vis-à-vis de lui, même à certains clins d'œil ou certaines expressions de visage. En fait, il y avait une profonde antipathie mutuelle entre beaucoup d'éléments politiques et le général de Gaulle, ce qui fait que celui-ci voulut fonder la Quatrième République sur des bases qui auraient écarté autant que possible les partis politiques. Ce fut l'objet du référendum de 1945, suivi d'élections qui donnèrent, comme on pouvait s'y attendre, à trois partis principaux, le Parti communiste, le Parti socialiste et le Mouvement républicain populaire, une majorité écrasante dans la nouvelle Assemblée. De ce moment date le conflit qui opposa le général de Gaulle et l'Assemblée nationale constituante sur le problème de la Constitution. On se souvient qu'un premier projet de Constitution avait été repoussé par le pays par un référendum, ce qui est d'ailleurs fort intéressant, car c'était la première fois dans notre histoire, si fertile en plébiscite et en référendum, qu'une consultation populaire de ce genre avait un résultat négatif. La deuxième fois devant être, naturellement, le référendum du 27 avril 1969. Puis, dans la lassitude, dans l'inquiétude, dans les restrictions matériel, dans les difficultés de toute nature qui accablaient alors la France, une deuxième constitution légèrement améliorée par rapport à la première, fut enfin votée en 1946. Mais de Gaulle n'était plus là, car sentant l'incompatibilité d'humeur, l'allergie, comme je le disais, qui le séparait du monde politique, il était parti volontairement en janvier 1946, laissant dans le désarroi le pays et le monde politique. Quant à moi, j'étais à Dakar en tant que ministre de la France d'Outre-mer. Le jour où fut annoncée la décision du général de Gaulle, il me l'avait fait connaître du reste un peu à l'avance. Une stupeur générale s'abattit sur le pays et puis, comme il n'est pas surprenant, surtout à une époque où les problèmes matériels dominaient, le pays s'habitua très vite à ne plus avoir à sa tête le général de Gaulle, et ce dernier, sans doute, conçut une profonde amertume de s'apercevoir que, contrairement à ce qu'il avait sans doute espéré, on ne venait pas le rappeler. Le fait marquant de 1946 avait été précisément ce vote d'une constitution que de Gaulle désapprouvait, et d'ailleurs, je crois, à juste titre. Et c'est pourquoi le mouvement politique qu'il décida de fonder au début de 1947, qui s'appela le Rassemblement du peuple français, et je revois encore la petite réunion dans une salle à manger bourgeoise de Paris où l'on décida de créer ce mouvement dont je devins le secrétaire général, le Rassemblement donc eut pour principal objectif de modifier la Constitution. Ce fut un mouvement révisionniste et qui voulait substituer à une Constitution dans laquelle presque tous les pouvoirs appartenaient à l'Assemblée nationale et où l'exécutif était faible, divisé et impuissant, un système dans lequel il y aurait la séparation et l'équilibre des pouvoirs. Ce mouvement commença par un discours prononcé par de Gaulle à Brunval le 30 mars 1947, puis surtout à Strasbourg le 7 avril, et dès le début, il y eut un mouvement d'enthousiasme de la part de gens de toutes sortes, mais spécialement d'anciens résistants, c'est bien compréhensible, de très nombreuses adhésions, nous étions débordés, je me souviens que nous avions de tout petits bureaux à Paris qui étaient littéralement submergés, et puis très vite il y eut les élections municipales en octobre. Et pour un mouvement qui n'était nullement préparé à cela, organiser des élections municipales dans toute la France était une chose quasi impossible. Je ne sais pas par quel miracle nous y parvînmes, et le résultat est là, le RPF devenait d'un seul coup le premier parti politique de France, avec la municipalité de Paris, celle de Marseille, celle de Bordeaux, celle de Lille, avec un pourcentage énorme de voix et un grand rassemblement groupant des hommes de toute origine politique s'était fait derrière ce drapeau. Il semblait donc, c'est l'impression que nous avions tous en octobre 1947, que très vite nous allions pouvoir parvenir aux affaires et faire prévaloir nos vues sur la Constitution. Ces vues sur la Constitution, j'en parlerai tout à l'heure, je rappelle simplement que dans un discours prononcé à Bayeux, de Gaulle avait fixé les grandes lignes de nos conceptions constitutionnelles. Et c'était là, je le répète, le point numéro un de notre programme. Or, c'est un fait que d'octobre 1947 à juin 1951, c'est-à-dire pendant 43 mois, les partis qui se trouvaient alors au pouvoir et qui avait été désavoué par les électeurs aux élections municipales, s'accrochèrent dans un combat retardateur, avec comme seul objectif de faire en sorte qu'il n'y eût pas d'élection législative et qu'ainsi le Rassemblement du peuple français, qui avait pratiqué une brèche dans le mur du régime, ne puisse pas élargir cette brèche et surtout s'emparer du donjon. Pendant ces 43 mois, il y eut 7 gouvernements, dont un seul d'ailleurs, celui de Robert Schuman en juillet 1948, fut régulièrement renversé par l'Assemblée nationale. Tous les autres démissionnèrent simplement parce que les partis qui les composaient ne pouvaient pas travailler d'accord. En 1948, eut lieu l'élection du Conseil de la République, du Sénat, comme nous dirions aujourd'hui, dans laquelle le Rassemblement du peuple français eut 130 élus, dont 44 purs, si l'on peut employer cette expression. Mais ce n'est pas là l'important. À mon avis, ce qui est le plus important et ce qui est le moins bien connu dans toute cette période, c'est le travail doctrinal intense qui fut fait, soit dans les grands congrès qui eurent lieu à Marseille en 48, à Lille en 49, à Paris en 50, soit plus modestement mais très efficacement dans les conseils nationaux qui se réunissaient 3 ou 4 fois par an, et enfin dans une multitude de commissions, de comités de travail, où petit à petit s'élabora une doctrine. Et je peux dire que dans l'histoire politique de notre pays, depuis la Troisième République, on n'a jamais vu aucun parti, aucun mouvement politique consacrer autant de soins à édifier une doctrine, mais j'ajouterais, la jeter par-dessus bord avec autant de désinvolture une fois qu'il fut parvenu au pouvoir. Et c'est là le paradoxe extraordinaire du gaullisme et de ce que j'appelle le néo-gaullisme, c'est qu'après avoir, d'une façon très sérieuse, très approfondie, en faisant appel aux personnalités compétentes de tous ordres, élaborer une doctrine sur toutes sortes de sujets importants, qu'il s'agisse de l'économie, de la politique, de la France d'outre-mer, que sais-je encore, le gaullisme, une fois arrivé au pouvoir en 1958, a purement et simplement, je le répète, jeté par-dessus bord cette doctrine pour aboutir à une sorte d'opportunisme ou même, je dirais, de nihilisme. Voilà peut-être le phénomène le plus étrange et le plus affligeant, dirais-je, que cette histoire du gaullisme fasse apparaître. Mais nous n'en étions pas encore là. Finalement, malgré tous les retards, les élections législatives eurent lieu le 17 juin 1951, sous le régime d'une loi dite des apparentements qui présentait cette caractéristique assez curieuse, il faut le dire, que dans une circonscription, un candidat qui avait obtenu 20 000 voix pouvait être battu par un autre qui en avait obtenu 10 000. Je n'entrerai pas dans le détail de ce mécanisme curieux, mais toujours est-il qu'avec 4 millions de voix, le Rassemblement du peuple français avait 128 élus et de ce fait possédait le groupe le plus important de l'Assemblée nationale. Devant les socialistes qui en avaient 107, le Parti communiste qui en avait 101, le MRP qui en avait 85, etc. Nous étions donc le groupe le plus important à l'Assemblée nationale et j'en fus élu le président. Il s'agissait alors de réfléchir soigneusement à ce que nous allions faire. Et pour ma part, je pensais, je pense encore, que dans cette situation où, bien entendu, nous ne détenions pas la majorité, mais où nous représentions un bloc très important, nous pouvions, par une tactique habile et sans rien sacrifier de nos principes, parvenir vers le milieu de la législature à renverser la situation à notre profit, de façon à constituer un ministère de coalition dans lequel nous n'aurions pas été seuls, bien entendu. J'ajoute que pour ma part, il ne m'est jamais venu à l'idée d'instaurer un régime de parti unique, mais un système dans lequel nous aurions détenu une part suffisante du pouvoir pour faire prévaloir nos conceptions dans les domaines les plus importants. Bien entendu, lorsque le Rassemblement du peuple français entra au Parlement, et c'est le début de ce que j'appelle la phase du gaullisme parlementaire, nous fûmes fort mal accueillis par nos collègues de tous les partis, depuis la gauche jusqu'à la droite, et nous fûmes enfermés dans une sorte de ghetto politique. Mais cela ne dura pas très longtemps. Dès janvier 1952, on s'était aperçu que nous formions un groupe sérieux de gens qui travaillaient, qui présentaient des idées importantes. Nos voix étaient nécessaires pour le vote de certaines lois, par exemple la fameuse loi Barranger sur les écoles libres. Et en somme, nous pouvions, je le pense, aboutir à des résultats importants, satisfaisants, avec un peu de patience et un peu d'adresse. Malheureusement, le tempérament du général de Gaulle, cette allergie dont j'ai parlé plus haut, le fait qu'il vivait une partie du temps loin de Paris, à Colombey-les-Deux-Églises, dans une ambiance très différente naturellement de celle de la capitale et encore plus de celle du palais Bourbon, la méfiance, l'irritation, l'amertume même qui commençait à dominer son caractère à mesure que le temps passait, tout cela n'était guère favorable à une tactique patiente, prudente, comme celle que je préconisais. En mars 1952, alors que la situation financière du pays devenait très grave et suscitait les plus grandes inquiétudes, le président de la République, qui était alors M. Vincent Auriol, appela le président Antoine Pinay à constituer le gouvernement et, après une violente discussion entre le général de Gaulle et un certain nombre de mes collègues, 27 de ceux-ci décidèrent de voter pour l'investiture du président Pinay, provoquant ainsi une grave scission qui traîna, qui suppura comme une plaie mal guérie pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'enfin, en juillet de cette même année 1952, dans un conseil national ou un congrès dramatique qui se tint à Saint-Maur, une partie des parlementaires décidèrent de quitter le mouvement. Sur ces entrefaites, M. Pinay ayant dû démissionner à la fin de l'année parce qu'il avait été abandonné par le mouvement républicain populaire, le président Vincent Auriol fit appel à moi pour former le gouvernement. Je ne pensais pas, bien sûr, y parvenir en raison de la position des différents partis, mais je croyais utile de faire cette expérience, ne serait-ce que pour pouvoir exposer certaines idées et surtout pour obtenir un grand nombre de renseignements de première importance sur les faits politiques, diplomatiques, économiques, militaires, financiers, etc. Et je fis donc ce qu'on appelle irrévérencieusement, dans le jargon parlementaire, un tour de piste entre le 25 et le 28 décembre 1952. Je le fis avec l'accord du général de Gaulle et d'une façon qui avait été discutée dans le détail entre lui et moi. Quelle ne fut pas ma surprise bien des années plus tard lorsque j'appris que le chef du Rassemblement du peuple français avait pris ombrage de la notoriété inévitable que m'avait valu ce tour de piste, du fait que j'avais parlé à la radio, que l'on m'avait vu sur les écrans, que la presse avait abondamment fait écho à mes déclarations, et c'est par des témoins qui ne se signalèrent à mon attention que beaucoup plus tard que j'appris que le général de Gaulle en avait été profondément mortifié, ce qui est sans doute une des premières causes de l'éloignement qui se manifesta plus tard entre lui et moi. Quoi qu'il en soit, j'avais ouvert la voie car, quelques jours après, ayant renoncé, bien entendu, à former le gouvernement, je voyais M. René Maillère prendre la tête du cabinet, et cette fois avec notre accord. Il semblait donc que nous étions sur la bonne voie, et en effet, un peu plus tard, le gouvernement Joseph Laniel fut formé avec une forte participation de ministres gaullistes, mais à mesure qu'en somme nous réussissions sur le plan parlementaire, le général de Gaulle s'éloignait de nous et, prenant prétexte du fait que, aux élections municipales d'avril 1953, le Rassemblement du peuple français avait perdu un assez grand nombre de voix et de sièges, de Gaulle fit une déclaration, dans un style d'ailleurs, je dois le reconnaître, magnifique, mais qui politiquement n'était sans doute pas heureuse, une déclaration par laquelle ils rendaient leur liberté, comme on a dit, aux parlementaires. De sorte que ceux-ci, ayant vaguement le sentiment d'être abandonnés et même d'être condamnés parce qu'ils se trouvaient dans la jungle parlementaire où cependant le général de Gaulle lui-même les avait placés, ayant le sentiment d'avoir rempli au mieux leur mission, se trouvèrent brusquement en enfant perdu, obligé de se débrouiller tout seul, ce qui ne fut pas facile. C'est donc de mai 1953 qu'il faut dater la fin du gaullisme parlementaire. Et en somme, depuis lors, jusqu'à mai 1958, pendant 5 ans, les gaullistes, qui s'appelèrent les républicains sociaux, firent de leur mieux dans un environnement difficile pour sauver au moins certains principes, pour défendre certaines idées, pour saisir toute occasion qui permettrait au général de Gaulle de revenir au pouvoir, et ce fut l'affaire d'Algérie qui permit ce retour. Ce retour, celui qui vous parle, en a été un des principaux artisans. Et je voudrais préciser dans quel esprit. Il ne s'agissait pas pour moi, et pour beaucoup de sincères gaullistes de cette époque, de hisser De Gaulle sur le pavois et de nous amener nous-mêmes au pouvoir pour le seul plaisir d'y être et d'y faire n'importe quoi. Il y avait pour nous une doctrine en matière constitutionnelle, économique, sociale, internationale, en ce qui concerne les territoires d'outre-mer et notamment en ce qui concerne l'Algérie, une doctrine que nous voulions appliquer. Et la raison pour laquelle nous voulions que De Gaulle revienne au pouvoir et que nous-mêmes nous y venions, c'était pour appliquer cette doctrine. Or, ce retour devait être à l'origine de nos plus profondes et de nos plus graves déceptions.